Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap sentira les embruns et le sel de la Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette édition, je vous amène en bateau, très exactement en Catalogne française. Nous allons embarquer au Barcarès pour une croisière littéraire. Et comme nous embarquerons sur le Lydia, vous ne risquerez pas d'avoir le mal de mer. Ce paquebot des sables qui, chaque fois que j'y monte, me rappelle irrésistiblement le Caraboudjan du capitaine Haddock. Je vais vous y présenter quelques acteurs du 5e festival Méditerranée, Polar et Aventure. Des écrivains, bien sûr, originaux, créatifs, talentueux. Une libraire, en l'occurrence celle de Cultura de Rivesaltes, avec ses collègues Julie et Brendal, nous ont accompagnés. Elles ont fait un superbe boulot durant tout le salon. Et puis, bien sûr, les promoteurs de celui-ci, Marie Dufaux, adjointe à la culture, et le grand ordonnateur des festivités, Jean-Christophe Ladjé. Allez, c'est parti, on largue les amarres.
Bonjour Benjamin Lupu. Donc Lupu, on dit Lupu.
On dit Lupu. Alors je pense que les Roumains disent Lupu, mais c'était mon arrière-grand-père.
Oui, alors donc on va le faire
à la française.
À la française et à la barcaressoise, je ne sais pas si on dit comme ça, puisque nous sommes au Salon des Livres du Barcarès, on est sur un bateau. On n'a pas le mal de mer parce qu'il est quand même bien ensablé.
Immobile.
On est sur le Lydia. Vous êtes un des auteurs de ce festival. Vous écrivez. Alors c'est des livres qui sont très très beaux. En présentation,
ouais,
en première
c'est
et
une,
quatrième
c'est
page.
Une collection particulière de l'éditeur Brajlon, qui s'appelle Le Mois du Cuivre, et qui est consacrée à des bouquins qui s'inspirent du 19e siècle, donc ils imitent les mises en page Jules Verne, etc. Donc c'est vrai que c'est très joli, je suis super content, puis l'illustration évidemment est très belle, Benjamin Carré, qui est un très bel illustrateur.
Alors le style, qu'est-ce que c'est ?
Alors le style porte un nom complètement absurde qui s'appelle le steampunk.
Ça ne dit pas grand-chose.
Voilà,
même, hein.
Voilà. Donc steam, c'est la vapeur. Hein. Donc c'est un 19e siècle, c'est de la science-fiction, voilà, qui se passe au 19e siècle. Donc au lieu d'avoir des soucoupes volantes, des vaisseaux spatiaux, vous avez des dirigeables, des machines à vapeur, même parfois des robots à vapeur, des automates, et ça s'inspire de tous les grands romans fantastiques, que ce soit Frankenstein, Sherlock Holmes, tout ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de prendre le 19e siècle et d'en faire un univers de science-fiction, en fait.
Et vous avez toujours écrit, d'abord ? D'autres livres peut-être, et
bien sûr,
toujours
ouais.
Dans le même univers.
Non, alors j'écris que de l'imaginaire, et l'imaginaire ça regroupe la fantasy, ça regroupe la science-fiction, les science-fictions, parce qu'il y en a un certain nombre. Je n'écris pas par exemple de policiers ou de littérature, la romance ou du classique, quoi. Et là, c'est mon premier livre de steampunk, et c'est un super essai, je suis ravi. D'habitude, j'écris plutôt de la fantasy, donc des choses comme Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux.
Oui, le Seigneur des Anneaux, ça a été le grand ancien.
C'est le fondateur. Ouais.
Est-ce qu'on a fait mieux, d'ailleurs, depuis ? Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, très belles. Hein,
là, mais... je pense que vous avez déclenché une guerre civile, mais je pense qu'on n'a pas encore dépassé le Seigneur des Anneaux, mais il y a des choses différentes et très belles qui ont été écrites, mais il a consacré sa vie entière. En fait, c'est un peu le Balzac de la fantasy, et je ne vais pas dire que personne n'a dépassé Balzac, mais je pense que personne n'a cherché à l'imiter, et pourtant il y a des choses magnifiques qui ont été écrites depuis. Voilà, c'est un peu pareil, je pense.
Qu'on appelle ce style de la fantasy ou ce...
C'est un terme anglo-saxon. Je sais qu'en France, on appelle souvent médiéval fantastique, mais c'est le terme anglo-saxon. Fantasy, c'est une sublimation du Moyen-Âge, des contes, de la magie, des mythes aussi. Et ça s'est imposé comme ça dans les années 80-90.
Alors, votre livre, Le Grand Jeu, quelle est la trame ?
Alors, le pitch, comme on dit...
Voilà, je ne voulais pas le dire.
Ah pardon, alors la trame, l'accroche, on va dire l'accroche. L'accroche, elle est assez simple. C'est donc un 19e siècle qui ne s'est pas déroulé tout à fait comme le nôtre, puisqu'à la place de l'Empire des Tsars, vous avez à partir de la moitié du 19e siècle, une dictature industrielle, on va dire, en Russie, qui a décidé de bouffer le monde, d'envahir l'Europe, etc. C'est un empire extrêmement agressif, et ça génère une guerre froide entre les Anglais, les Français et les Russes. Et qui dit guerre froide dit espion, dit espionnage. Et ça se passe donc à Constantinople, qui est l'ancien nom d'Istanbul. Et l'idée, c'est que c'est un nid d'espions, comme le Caire, comme Gaza. Et donc, voilà, vous avez une ville qui est un peu différente, donc avec toutes ces machines, ces mécanismes et ce genre de choses. Et dedans, vous allez avoir toute une intrigue avec des espions qui se tirent dans les pattes, hein, pour faire court. Arrive dans
c'est
ce jeu.
C'est eux, ça s'en
ouais, mais en moins drôle. En plus d'action et en moins drôle.
Il y a c'est vrai qu'en 1617 est né à côté du Lydia, puisque
ah non, je savais pas.
L'auteur Bruce, qui s'appelait Jean Bruce, voilà, oui. Était de la Franquie, il écrivait à la Franquie, c'est-à-dire juste un peu, on voit de la falaise de Leucate, c'était juste derrière.
Ah bah, écoute, j'irai faire un petit pèlerinage parce qu'il. Alors je crois que les livres sont un peu particuliers quand même.
Oui, puis c'était lancé. Après, on a eu, à l'époque, il y avait un poil d'érotisme, c'est-à-dire.
Oui.
Il y avait quelques mots qui faisaient fantasmer, et après est arrivé, je crois, SAS qui.
Oui, lui, alors lui, il y a été. Oui, il y a été franco. Ouais.
Voilà. Le sexe, la violence, et après.
J'avais lu quelques bouquins, hein. C'est comme les Bob Moran quand j'étais petit, mais. Mais après, bon, j'ai.
Dont on vient de pleurer la disparition. De,
ouais, d'Henri Verne. C'est quand même un monument, le
qui nous a tous nourri l'imaginaire. Ah, bah, ouais. Alors, dans Le Grand Jeu, c'est votre premier ?
Non, c'est le deuxième.
Ils ne se suivent pas.
Non, alors, pardon, dans Le Grand Jeu, c'est le premier, c'est un one-shot.
D'accord.
Donc, c'est vraiment une histoire finie. Je pourrais écrire dans l'univers d'autres histoires, mais là, c'est résolu à la fin. Et par contre, c'est mon deuxième roman, ouais, effectivement. Donc,
et le premier, c'est...
Alors, le premier s'appelle Les Mystères de Kyoche, et c'est vraiment de la fantaisie. C'est de la fantaisie dite urbaine, c'est-à-dire que ça se passe dans une ville cosmopolite qui pourrait être Rome ou Bagdad.
Et à quelle époque ?
Alors, il n'y a pas d'époque, puisque c'est un univers totalement imaginaire, mais on pourrait dire que c'est une sorte d'antiquité. Voilà, si ça pourrait être ça. Et ça suit les tribulations d'une magicienne qui a été chassée de son école et qui est déchue et qui cherche à pas se venger, mais à prendre sa revanche sur la vie.
Benjamin Lupus, c'est votre métier, l'écriture ou...
C'est mon deuxième métier. J'ai commencé il y a pas longtemps, il y a 5 ans. Donc, vous voyez, je suis un petit nouveau dans l'écriture. Et non, j'ai un métier pour l'instant. Voilà, je suis encore en apprentissage d'écriture. Je me considère comme apprenti.
Je crois qu'on est apprenti du début à la fin.
Oui, je pense que les écrivains dans le festival, il y a quand même des écrivains aguerris.
Oui, je
ne
sais pas trop ce que ça veut dire aguerri. Mais, plus vieux, votre éditeur.
Alors Bragelonne, c'est, on va dire, la locomotive de l'imaginaire en France. C'est un très gros éditeur. C'est en partie Hachette aussi, d'ailleurs. Et donc, vous allez trouver dans les librairies tous les livre Bragelonne, c'est une grande part de l'imaginaire dans l'imaginaire en France. Donc, je suis très content d'avoir signé avec eux.
Merci Benjamin Lupus.
Ben, merci
Le
beaucoup.
Grand Jeu chez Bragelonne, et puis je vais le lire et le dévorer certainement.
C'est
avec
très gentil.
De plaisir. Merci et bon salon.
Et ben de même.
Perrine Lacroix, Cultura, sur le Lydia. Il n'y a pas de vente de livres sans libraire. Il n'y a pas de livre sans libraire non plus, d'ailleurs, puisque ça ne marche pas autrement. Mm. Ça ne marche pas aussi bien. Alors, c'est votre première participation au salon ?
Oui, en tant que Perrine Lacroix, mais pas en tant que Cultura.
D'accord, vous avez déjà œuvré.
Oui, Cultura est partenaire de ce salon depuis sa création. Et ce sont mes prédécesseurs qui ont organisé les événements passés. Et moi, c'est mon premier événement, donc je suis contente.
Alors, impression ?
Un peu de pression parce que quand on vous demande d'acheter les quantités avec en disant à l'appréciation des libraires, il y a un petit peu le stress de se tromper sur les quantités de livres pour ne pas que les auteurs soient déçus, pour ne pas que le public soit déçu et pour tenir sur les 3 jours de salon. Donc il y a une vraie pression là-dessus en fait, plus sur les quantités. Après, on sera dépendant des événements, dépendant du public.
Et Cultura, c'est à Perpignan ?
Oui, c'est à Cléra, dans une zone commerciale à proximité de Perpignan.
C'est un grand Cultura ?
C'est un moyen Cultura.
Alors Cultura, on vend beaucoup de choses, on ne vend pas que des livres dans un Cultura ?
Non, on vend principalement l'idée majeure, c'est le livre, mais il y a aussi tous les métiers de la culture en fait. Ça passe par la vidéo, la musique, l'instrument de musique, le gaming et le loisir créatif. Et de plus en plus, désormais, le jeu de société. Qui a pris une vraie ampleur avec le confinement et qui aujourd'hui est un vrai marché aussi au sein du magasin.
C'est une nouvelle FNAC, Cultura ?
C'est pas une FNAC parce qu'on va pas développer les mêmes produits. Il y aura pas de l'électroménager, il y aura pas des produits comme la FNAC peut faire avec des trottinettes électriques qu'on voit fleurir un peu dans les différentes FNAC. On n'a pas ce créneau-là. On a vraiment la volonté de développer la culture et ça passe par d'autres biais en fait.
Comment ça s'est passé le confinement pour Cultura? Vous avez souffert de ce Covid?
Non, on n'a pas souffert. Au contraire, ça a permis aussi aux gens de se recentrer sur eux-mêmes. Et comme je le disais, mais les jeux de société, ça a été les puzzles, les loisirs créatifs. Il a fallu occuper les enfants, les mamies. Je pense que Cultura a su développer beaucoup de produits et une proximité, même à la réouverture des magasins. Les gens se sont réappropriés la lecture. Il y a eu beaucoup de ventes aussi de jeux vidéo à cette période, des jeux vidéo familiaux. Ça a vraiment développé quelque chose. On ne pouvait plus aller dans les salles de cinéma, on ne pouvait plus aller dans les salles de concert. Je pense que Cultura a participé au confinement, en fait.
Le livre se vend bien aujourd'hui ?
Oui, le livre se vend bien aujourd'hui.
Qu'est-ce qui se vend bien dans les livres ? Tous les gens, entre guillemets, tout. Il n'y a pas des gens qui émergent, comme le polar, on dit souvent que le polar se vend mieux que le reste.
Le manga,
oui.
il y a un vrai développement du manga, aussi bien pour un gamin de 8-10 ans que pour un adulte. Aujourd'hui, on voit même des livres comme La Peste, qui est adapté en manga. Enfin, il y a un vrai créneau à prendre sur le manga. Et...
je ne sais pas si vous pouvez l'observer, mais est-ce que ceux qui achètent des mangas et qui peut-être débutent la lecture par le manga, est-ce qu'ils viennent après à des choses plus classiques ?
Alors, je suis maman d'un enfant de 13 ans, donc j'ai envie de vous dire que je l'espère, que mon fils viendra à des choses plus classiques. Aujourd'hui, il y a des choses très bien dans le manga, c'est-à-dire qu'ils ont fait des romans qui expliquent les personnages de manga, ce qui fait que ça oblige un peu le gamin qui lit un manga à aller lire un roman pour comprendre un peu le personnage. Donc ça, je trouve que c'est un bon point. Et aussi, au travers du manga, il y a le dessin. Et beaucoup de gamins se mettent à dessiner, en fait, et à quitter un peu l'esprit jeu vidéo, ben voilà, dans l'espoir de devenir mangaka, dessinateur de BD, mais... Il y a beaucoup de choses autour du manga. On a beau dire que ce n'est pas de la lecture, mais il y a quand même beaucoup de choses autour du manga. Il y a une culture japonaise, il y a plein de notions. Enfin, en tout cas, moi j'en lis de temps en temps. Ma maman qui a 60 ans, elle en lit aussi, peut-être pour faire plaisir à son petit-fils. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes. Et ça, ça prend une ampleur de folie, quoi.
Quand on est fils d'une libraire, on doit lire, non ? Vous le poussez à lire ?
Non, je ne l'ai jamais poussé à lire. Et il a toujours lu. Mes deux enfants ont toujours lu. Mon petit et mon grand, il y a des livres partout à la maison. Ils ont toujours lu, mes enfants. Après, on a toujours été abonnés aux bibliothèques, aux médiathèques. On allait dans les librairies. On va dans les boîtes à livres des villages. Il y a un rapport aux livres qui est très fort dans ma maison, oui.
Quand on est sur un salon, on voit quand même arriver beaucoup de gens qui vont, qui viennent, ceux qui achètent. Pour la plupart, c'est un peu comme la cible de TF1, c'est la ménagère de plus de 50 ans. On dédicace beaucoup plus à des femmes qu'à des hommes et rarement à des jeunes. Vous avez noté ça dans Cultura ou vous voyez tout public chez vous, en dehors des mangas, hein, sur la littérature un peu plus classique?
On voit tout public, vraiment, on voit tout public. Là, moi, je viens de traverser mon premier été aussi en tant que libraire. Je n'étais pas dans ce milieu avant. J'étais juste consommatrice. Mais j'ai été assez surprise cet été du public. Alors après, on est aussi sur une région touristique. Mais on n'a pas eu que la ménagère. On a vraiment eu le mec qui vient acheter un livre sur les champignons, le gars qui vient acheter un livre sur le Tour de France... Il y a eu... moi, je suis assez étonnée, en fait. Après, on est un grand magasin. On a énormément de références qui peuvent permettre de trouver un livre sur la santé. On a beaucoup, beaucoup de ventes aujourd'hui. C'est un gros marché aussi. C'est l'épanouissement personnel. Encore une fois, le confinement a beaucoup aidé, mais les gens ont besoin de lire des livres qui les aident à se sentir mieux. Du coup, ce côté un peu épanouissement personnel, ça prend aussi une valeur très forte.
Périne Lacroix, merci. Bon salon à vous aussi.
Merci.
C'est ce que je souhaite aux auteurs, mais il faut le souhaiter à notre libraire, grâce à qui nous arrivons à pouvoir vendre nos livres. Merci, bravo à Cultura de nous accompagner.
Merci beaucoup.
Voilà, François-Xavier Dillard, spécialiste de banalité, puisqu'il m'a dit qu'il ne proférait que des banalités, mais nous savons que ce n'est pas vrai, c'est un faux modeste. Prendre un enfant par la main, c'est le petit dernier ?
Alors, c'est le petit dernier en poche, mais le petit dernier en grand format, que je n'ai pas aujourd'hui, parce qu'il est sorti avant-hier, s'appelle « L'enfant dormira bientôt ». Tu vois, je reste...
Toujours dans les enfants.
Dans les enfants, oui, oui.
Et alors, qu'est-ce que... Ça parle de quoi ?
Alors, celui que tu as entre les mains, qui vient de sortir chez Pocket, c'est une histoire... c'est en fait un couple qui part en vacances en Corse, sur leur voilier, avec leurs deux enfants, donc une fille qui a 10 ans et un petit garçon qui a 5 ans. Et au moment où ils repartent de Propriano, la capitainerie leur dit « Partez pas, il va y avoir un grain, ça va vraiment bastonner, donc partez pas. » Et le père dit... non, mais moi, mon bateau est neuf, je sais bien naviguer, je pars. Évidemment, ils essuient une tempête épouvantable. Ils se battent toute la nuit, ils sauvent le bateau. Mais au petit matin, leur fille a disparu. Il n'y a plus que le petit garçon dans le bateau.
Donc elle est certainement tombée à la mer.
Elle est certainement tombée à la mer. Donc ils sont évidemment dévastés de culpabilité, de colère mutuelle. Ils s'installent à Paris. Et 3 ans plus tard, en face de chez eux, arrive un couple de femmes avec une jeune fille qui s'appelle Gabrielle, qui a 13 ans. Et qui ressemble beaucoup à leur fille. Mais comme deux jeunes filles peuvent se ressembler, mais c'est vraiment frappant. Et en plus, elle est née exactement le même jour. Et donc, évidemment, la mère va se mettre à faire un transfert sur cette gamine. Elle va renaître un peu à la vie. Sauf qu'un matin, la mère de Gabrielle débarque chez elle et dit « Gabrielle a disparu ». Voilà. Et donc, tout va recommencer. Voilà.
Alors ça, c'est prendre la femme par la main. Après d'autres livres, d'autres styles, d'autres genres. On sait qu'il n'y a pas de genre, on a expliqué,
on a expliqué ça longuement hier.
Enfin bon, on va employer le terme, il est commode.
Moi, le genre, effectivement, c'est un genre de thriller psychologique, ce qu'on appelle le thriller psychologique, qui se passe souvent dans un environnement familial, parce que la famille est un terrain de jeu formidable pour les auteurs de thrillers. Donc, pour l'instant, je reste dans ce genre-là. Je ne m'interdis pas d'aller dans d'autres genres, mais comme tu le soulignes, il n'y a pas de genre, en fait. On fait des livres, et puis... ils appartiennent aux lecteurs après, pas un genre particulier.
Oui, qui en ont une lecture particulière.
Exactement.
Le regardeur fait le tableau, le lecteur refait le livre.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Et ça, tu fais bien de dire ça parce que c'est peut-être la caractéristique la plus intéressante de l'écriture. C'est que jamais aucun autre média ne laisse autant la part belle à l'imagination de celui qui le regarde. Un tableau, on t'impose des images. Un film, on t'impose des images, une vision. Un livre, c'est génial parce que. Moi, je décris une femme, une maison, une voiture et ça. Le lecteur, il ne va pas voir ce que moi, même si je le décris avec énormément de minutie, tu demandes à 10 lecteurs de te dessiner ce que tu as écrit, ils vont dessiner 10 maisons différentes parce qu'ils vont y mettre tellement d'eux, tu vois, dans ça. Et ça, c'est l'écriture qui te permet un truc pareil. Chacun va créer son histoire. Moi, tous les lecteurs, je pense, sont des co-auteurs de l'histoire parce qu'ils y mettent tellement de leur propre expérience, leur propre sentiment.
C'est extraordinaire quand on a des rencontres avec des lecteurs, notamment dans des bibliothèques, et on est sous le feu roulant des questions. Et au bout d'un moment, on ne sait plus si c'est vraiment le livre qu'on a écrit parce qu'on est complètement perdu.
Oui, oui.
Ils ont vu des choses extraordinaires. Finalement, ils sont meilleurs que moi.
Là, ils apportent une contribution incroyable à l'ouvrage. Et ça, c'est la force de l'écriture, ça. Je pense qu'on ne peut pas trouver un autre média.
François-David, hier, c'est votre métier, l'écriture ou...
Non. Non, ce n'est pas mon métier. Et puis, est-ce que c'est un métier, l'écriture ?
Non, ce n'est pas un métier, c'est une passion, c'est un plaisir, c'est une activité.
Alors après, moi, je fais un roman par an, donc mon éditeur me demande un roman par an, donc ça devient un peu une activité quand même qui me prend du temps. Mais moi, je fabrique des fermes solaires pour un grand énergéticien français.
C'est tout à fait autre chose.
Ça permet
de vous tenir quand même au courant de tout. Si
ça m'ancre dans le réel. Si tu veux, là, tu vois, moi je négocie des contrats avec des collectivités, avec des choses comme ça. Donc là, t'es bien dans le réel. Là, tu vois. Mais c'est bien aussi d'avoir ces deux activités. Est-ce que j'ai envie, si un jour je peux m'arrêter de travailler parce que mon écriture me rapporte suffisamment, est-ce que j'ai envie de faire que ça ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie que ça devienne un métier ? Tu vois ?
Quand ça devient un métier, c'est plus pareil. Il y a quand même une contrainte économique.
Ouais, ouais.
Et travailler sous la contrainte économique, certains le font. Hein, certains ont tout abandonné pour écrire. Ça devient l'usine. Et là, est-ce que le plaisir est toujours là ?
Ouais. Après, ça dépend. Parce que moi, je connais des auteurs qui vendent beaucoup de livres. Et quand tu as passé un certain stade, tu as quand même une certaine liberté. C'est-à-dire que quand tu as un stock de poche qui te permet, tu vois, de vivre parce que tu en vends 150 000, 200 000 par an, etc. Bon, tu es moins contraint par... tu as plus de temps, mais ça, c'est quand tu es devenu presque une star de la littérature, si tu veux.
Il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup.
Et c'est quand même très dangereux. C'est très évanescent, tout ce genre de choses. Bon, on rappelle le titre, François-Xavier Dillard, Prendre un enfant par la main. L'éditeur, qui est-ce?
Alors là, c'est Pocket, celui qui est entre les mains. Mais là, j'ai fait ce livre chez Belfond. Et le prochain qui sort, L'enfant dormira bientôt, il est chez Plon.
D'accord, voilà. De très belle maison.
La maison historique.
Absolument.
Mes parents sont contents, ils connaissent cette maison d'édition. Vieille maison d'édition gaulliste.
Oui, ça fait plaisir toujours aux parents. Merci François-Xavier Dillard.
Merci à toi.
Julien Messenmakers, je l'ai bien dit.
C'est ça.
C'est un nom donc, d'origine flamande, si j'ai bien compris.
Exactement.
Et j'ai devant moi le dernier, je pense que c'est le dernier, Le poison du doute, un gros livre, enfin gros, pas si gros que ça, mais
merci.
Grand, aux éditions Le Passage Thriller.
Tout à fait.
Édition parisienne.
Absolument, petite maison d'édition défendue avec ardeur par son fondateur, Yann Briand, qui était le premier éditeur de Franck Tilliez, l'éditeur de Fabrice Imbert aussi, et puis il m'a fait le plaisir et l'honneur de prendre effectivement Le Poison du Doute chez lui.
C'est le premier ?
C'est le deuxième roman.
Polar toujours ?
Polar toujours, oui, j'essaie de... Oui, effectivement, je pense que je suis plutôt fait pour ça qu'autre chose, donc je reste un petit peu dans le polar, même si on aimerait changer un petit peu de registre, mais là je reste dans le polar pour le moment.
Mais ça va venir ?
J'espère, oui. Peut-être le quatrième ou le cinquième roman, ce sera autre chose qu'un polar. Ce sera quelque chose de plus intime, plus personnel. Mais bon, c'est un truc que je me donne plusieurs années pour l'écrire. Ce sera peut-être mon grand œuvre, j'en sais
rien. La grande œuvre. Le grand œuvre.
Voilà, exactement.
De Julien Messenmaker. Mais ce n'est pas votre métier. Enfin, on le disait avec votre prédécesseur là tout à l'heure, c'est pas un métier l'écriture. Enfin, ça dépend comment on la pratique, parce que vous pratiquez l'écriture, mais dans un autre monde.
Voilà, moi j'ai mis du temps à arriver jusqu'à l'écriture, j'ai mis du temps jusqu'à que ça devienne réellement un métier. C'est un parcours un petit peu tortueux pour moi, le chemin que je me suis frayé jusqu'au mot, jusqu'à la confiance à trouver. Pour réussir justement à mettre sur le papier toutes les idées qu'on peut avoir en tête. Donc ça n'a pas toujours été un métier, mais ça l'est devenu aujourd'hui. Voilà, j'écris effectivement, je passe ma vie à écrire des romans et comme vous le dites, cher ami, également des scénarios pour l'audiovisuel. Et d'ailleurs, cette histoire qui, à la base, était tout à fait un sujet de roman, mais comme bien souvent dans mon travail, j'ai pris l'habitude de faire des trames assez courtes, des documents de 20-25 pages. J'avais cette histoire résumée sur 25 pages, et en fait, en la faisant lire à des producteurs, c'est d'abord devenu un téléfilm qui a été tourné pour TF1. Mais j'aimais tellement l'histoire, il y avait tellement de choses que j'avais pas pu jouer dans le téléfilm que j'ai voulu écrire le roman. Donc je me suis arrangé avec le producteur et tout, etc., qui a été génial, pour en fait l'écrire sous forme de roman, pouvoir jouer tous les points de vue que je voulais jouer, pouvoir jouer les deux temporalités que je voulais jouer, parce que effectivement le roman raconte l'histoire de cette jeune femme, jeune mère de famille, infirmière très très heureuse dans sa vie, installée en Baie-de-Somme avec son mari et son petit enfant, qui subitement voit son bonheur voler en éclats lorsqu'une flic débarque chez elle en accusant son mari d'avoir assassiné sa première famille 15 ans auparavant.
Ouais, ça me rappelle quelqu'un.
Voilà, ça exactement.
Ça me rappelle un peu quelque chose que je suis en train d'écrire aussi.
D'accord, très bien. Je ne savais pas, mais je serais curieux de lire, évidemment. Et donc voilà, dans cette histoire, ce qui m'amusait sous forme de roman, c'était de pouvoir jouer les points de vue, celui de la policière, évidemment, de la mère de famille, mais aussi du premier personnage féminin, à savoir... Cette femme qui a été assassinée par son mari 15 ans auparavant. Donc je raconte aussi ça dans le roman, et tout ça n'est pas dans le scénario en fait.
Alors être scénariste, c'est pas du tout la même technique quand on écrit des scénarios.
Absolument, absolument, ça n'a rien à voir. Un scénario, en fait, on écrit surtout pour un réalisateur ou des acteurs. Donc c'est vraiment plus un document de travail. Ça n'empêche pas que dans sa tête, on se fait le film, évidemment. Mais voilà, les contraintes, on sait que... déjà, il y a 80 scènes, pas plus. On sait qu'on écrit pour des gens, il faut que ce soit vraiment dialogué, etc. Faut que tout soit très très simple, que la mécanique soit vraiment limpide. Donc c'est effectivement, les contraintes sont beaucoup plus importantes.
C'est plus frustrant.
C'est plus frustrant évidemment parce que bon.
Donc on se dit on va aller jusqu'au bout des choses. On va approfondir,
voilà,
on va développer.
Exactement. Exactement. Ce roman, comme vous le dites, cher ami, est le fruit d'une frustration en fait de scénariste et que j'ai essayé de canaliser à travers une écriture d'auteur littéraire, on va dire. Donc effectivement, c'est plus frustrant.
Comment on se forme au métier de scénariste ?
Oh, moi, je me suis formé d'abord, c'est un peu bateau, mais on regarde des films et tout, etc. Après, aujourd'hui, il y a pour les jeunes qui voudraient écrire, par exemple, aujourd'hui, il y a des très très bonnes formations. La FEMIS fait d'excellents ateliers où quasiment tous les jeunes qui en sortent réussissent à travailler assez rapidement et tout, etc. Donc il y a vraiment, aujourd'hui, ça s'est vraiment professionnalisé la formation de scénariste.
Quelle qualité il faut pour être scénariste ? Qu'est-ce que c'est l'imagination, la rigueur ?
Les deux, en fait. Tu as défini les deux qualités principales, effectivement, l'imagination et la rigueur. Travailler vite et puis être dramaturge.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que vraiment le scénario, il faut tout rassembler autour de scènes fortes, conflictuelles, etc. Il faut avoir ce sens de la dramaturgie, du conflit de personnages, parce que finalement, ce n'est que ça. Alors, on peut se dire que dans la littérature aussi, c'est beaucoup ça, mais dans la littérature, on peut faire tellement passer d'autres choses à travers les mots, alors que en fait, la dramaturgie, c'est les acteurs qui vont faire passer les choses. Donc il faut toujours avoir ça à la tête, en fait.
Donc on est au service d'autres.
Exactement, on est vraiment au service d'autres.
On va écrire pour les valoriser.
Oui, alors ça c'est le must, effectivement, réussir à écrire des très beaux dialogues pour des acteurs qui sont contents de les jouer. Ça c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et voilà, avoir ce goût de la dramaturgie, aller voir du théâtre, lire du théâtre, parce que le scénario, c'est ça, hein, c'est des pièces de théâtre, donc voilà.
Bien, merci Julien Meckers. Le Poison du Doute au Passage Thriller, c'est ça ?
Exactement, merci infiniment de m'avoir accueilli.
Et très bon salon.
Merci beaucoup.
Fabrice Papillon, auteur, un prix hier soir ?
Voilà, on m'a remis avec un petit décalage dans le temps le prix Méditerranée Polar 2020. Et j'ai transmis le témoin au lauréat 2021. L'année dernière, avec le Covid, on n'avait pas pu faire la petite cérémonie, donc j'étais heureux de le recevoir hier soir.
Donc là, c'était la réception officielle. Et là, on a un scoop aliéné chez Plon,
oui,
qui va sortir dans quelques jours.
Le 14 octobre, exactement.
Polar ?
Oui, polar, mais à ma manière, c'est-à-dire toujours matinée de beaucoup de sciences, d'histoire, de philosophie, d'un peu d'ésotérisme. Et donc, il y a bien des meurtres, mais c'est des meurtres un peu particuliers et qui finissent toujours, comme dans mes deux précédents, par embarquer la moitié de l'humanité. Hein.
Donc c'est vaste.
C'est un peu vaste. Alors, ça fait du boulot pour les enquêteurs. D'ailleurs, dès le départ, on sait que c'est un peu un cas exceptionnel, puisque ça commence par un meurtre dans la Station Spatiale Internationale.
Ah oui, c'est quand même barré. Ça doit être un scoop, ça aussi.
C'est un scoop, ça n'est jamais arrivé. C'est le premier mort de l'histoire de l'espace. Et c'est un cadavre éviscéré qui flotte en apesanteur, les tripes à l'air, dans un module de recherche de la station. Et je peux vous dire que ça met en émoi le monde entier et la communauté internationale. Et puis, dans le deuxième chapitre, même configuration, un cadavre du même type, éventré, mais cette fois à 30 mètres de profondeur, dans des galeries mystérieuses de la Croix-Rousse, colline de Lyon, qui existent, ces galeries. Elles s'appellent les Arêtes de Poisson, un mystère absolu de la science. Elles ont 2000 ans et on ne sait pas comment techniquement des hommes ont pu creuser dans des calcaires aussi durs, des galeries aussi géométriquement parfaites. Et donc l'histoire commence avec cette double énigme, synchrone, deux Américains éventrés de la même manière, à 450 km d'écart. Et donc deux enquêtes commencent, une internationale dans l'espace, l'autre à Lyon, avec une flic de la PJ qui est un peu original, hein, qui est un petit peu, qui fume beaucoup de cannabis, qui parle de l'argot et qui dit qu'elle veut, elle est élève commissaire en même temps qu'elle est flic. Et elle dit qu'elle n'a pas envie de devenir commissaire parce qu'elle n'a pas envie de sucer des préfets. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est un peu.
Vous allez loin. Voilà. Qu'elle a la barreau d'entrée.
Elle est un peu spéciale et du coup avec son caractère. Elle ne va pas se laisser faire, elle va faire le lien entre les deux affaires, elle va réussir à se faire envoyer aux États-Unis. Et là, les deux affaires commencent à se mélanger. Là, on rentre vraiment dans une aventure presque James Bondesque, avec des poursuites en F-16, un départ dans l'espace et encore d'autres.
Ne dites pas. Voilà, je dis c'est pas. Quand même un gros livre. Hein, comme il fait
500 pages.
Hein,
oui.
Donc il faut tenir, il faut tenir le rythme.
Moi, mes livres sont souvent entre 450 et même 600 pages, le premier. Parce que je nourris beaucoup mes intrigues de faits réels, historiques, scientifiques. Pas mal d'allusions à des personnages historiques aussi. Dans les deux premiers romans, il y avait carrément des chapitres dans le passé avec des personnages très connus. Ça pouvait être Socrate, ça pouvait être Michel-Ange, Léonard, etc. Là, il n'y a pas d'aller-retour, mais il y a un personnage qui nous connecte avec le passé, qui est un moine jésuite, directeur de l'observatoire du Vatican, et qui travaille au Mount Ram aux États-Unis où se trouve leur télescope. Donc tout finit par converger et on est repropulsé dans le passé, dans l'histoire sombre de l'humanité.
Ça veut dire qu'il faut faire quand même beaucoup de recherches préalables pour arriver à écrire ce genre de livre.
C'est ça, c'est ma marque de fabrique, moi comme je suis journaliste scientifique, mais...
J'allais poser la question, journaliste scientifique, voilà. Vous avez...
C'est ça, 10 ans à Europe 1, c'est dans l'air, et maintenant producteur depuis 15 ans de films documentaires scientifiques pour Arte, France Télé, les États-Unis, les Japon, etc. Et historien de formation. Du coup, mes deux amours, mes deux spécialités, je les sublime et je les mélange à travers du divertissement. Ça reste un thriller avec des aventures, mais vraiment, je fais des recherches comme pour mes films, comme pour mes travaux. Et donc, ça me permet d'aller très, très loin dans, j'allais dire, le côté réaliste et authentique des décors, des personnages, des lieux que je décris. Oui.
Alors, un livre comme ça, comme Aliéné, ça vous a 500 pages, des recherches, on l'a compris, mais dans votre pratique quotidienne, est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps pour l'écrire ?
Oui, c'est oui. Forcément. Je vous dirais que moi, j'essaye de publier un livre tous les deux ans. C'est le troisième en 6 ans. Bon. Et chaque fois, je mets à peu près... Alors, j'ai un travail très prenant, producteur, etc. Et j'enseigne aussi beaucoup. Bon, donc, j'ai des petits moments. Et dans ces petits moments, j'utilise à peu près un an pour faire toutes les recherches. Des pré-interviews, des visites, etc. Et un an d'écriture.
Ça veut dire quand même que vous avez en tête à peu près le schéma du livre.
Ah ben, je ne commence pas à écrire le premier mot du premier chapitre avant d'avoir 15 à 20 pages de plans très structurés. C'est ma méthode, qui est assez classique, mais qui est assez rassurante, surtout quand c'est aussi pointu et qu'il y a autant d'éléments différents, sciences, scientifiques, historiques. Faut pas se tromper, voilà.
Assurément, tout le monde peut le lire. Il n'y a pas besoin d'être un scientifique de pointe pour s'y retrouver.
Pas du tout. C'est une atmosphère, une ambiance très réaliste, scientifique, etc. Plein de mystères, puisque là, les extraterrestres planent. C'est pour ça que ça s'appelle Aliéné et Aliéné. Et voilà, avec sans accent sur Alien. Donc il y a un côté très ludique et très, qu'on peut très bien comprendre. Et il n'y a pas de jargon, au contraire, c'est mon métier de la vulgarisation. Donc, en fait, on touche des choses, on apprend plein de choses en science, etc., mais avec toujours une simplicité journalistique. Donc évidemment, c'est très accessible.
Bon, mais écoutez, avec tout ce que vous nous avez dit, j'espère que ça donnera envie à beaucoup de le lire, et d'ailleurs moi-même, puisque je vais vous demander de me le dédicacer, Fabrice Papillon, Aliéné, chez Plon, et ça va sortir dans une dizaine de jours.
Le 14 octobre.
Le 14 octobre, voilà.
Merci beaucoup.
Merci Fabrice. Marie Dufaux, adjointe au maire du Barcarès, en charge de la culture et donc en prise directe avec le Salon du Livre du Lydia sur ce fantastique bateau qui se dégage un charme, c'est toujours le même, on a toujours autant de plaisir à venir. Comment ça s'est passé ce début de festival? Parce que ça fait combien, deux ans qu'on n'était plus venu.
Voilà, deux ans, parce que la pandémie était là, donc nous avons dû annuler le festival du Polar l'année dernière. Et cette année, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous recommençons et que j'espère l'essor de ce festival va se faire au fil des jours. Là.
Oh, maintenant, il est quand même bien enraciné.
Il est bien enraciné, mais bon, c'est un jeune festival encore. Donc, il faut quelques années pour vraiment arriver à se faire connaître. Mais nous avons quand même de fabuleux auteurs, de polars, de venu.
Il y a un beau plateau, on va le dire.
Et déjà, je suis ravie parce qu'ils sont tous heureux de se retrouver. Ils avaient besoin aussi.
Oui, ça, je crois que ça a été le premier plaisir, c'est de se retrouver ensemble.
Le premier plaisir, c'est de se retrouver. Et pour les lecteurs aussi.
Est-ce que ce n'est pas un festival qu'il faudrait faire en pleine saison touristique, au moment où il y a beaucoup plus de monde qu'il n'y en a aujourd'hui ?
On en a beaucoup discuté, puisque normalement notre festival, nous le faisons en juin. Avec la pandémie, nous l'avons repoussé en septembre cette année. Mais il y a tellement de monde l'été que je ne sais pas si c'est une population qui sera tellement intéressée. La question s'est posée, on en reparlera.
Ils vont peut-être plus préférer la plage. Mais en fait, ils sont au pied du Lydia, ils peuvent monter.
Ils peuvent monter, oui. Peut-être on pourrait faire l'expérience un an pour savoir ce que ça donne, pourquoi pas. Peut-être nous aurions d'autres lecteurs, une autre catégorie de personnes intéressées justement par le polar. Et puis, bon, de la culture pendant les vacances, c'est aussi intéressant.
Le Barcarès, ça vit de toute façon à l'année. Alors, il y a quand même pas mal de logements vides, puisque c'est une cité qui tourne le plus en été. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résidents, pour m'être un peu promené, qui sont là à l'année. Alors, passablement de retraités, vraisemblablement.
C'est ça. À l'année, nous sommes à peu près 7000 habitants, mais on peut vraiment dire que nous sommes 10 000, parce que nous avons la population toulousaine qui vient passer 8 mois, ou des Belges. Et donc, c'est des gens qui, quand même, puisque ce sont des retraités, s'intéressent à la culture. Donc, ils fréquentent la Maison des Arts, la médiathèque. Donc, peut-être, oui, si on avait le festival en plein été, cela pourrait être intéressant pour eux et pour les touristes. Donc, toujours une question à débattre. Nous verrons.
Oui, c'est toujours très délicat de situer un festival. De toute façon, il y a des inconvénients, il y a des avantages.
Tout à fait.
Les gens, quand même, lisent un peu moins aujourd'hui, ou de moins en moins.
C'est vrai, malheureusement.
C'est peut-être plus le troisième âge qui lit. Enfin, le troisième âge qui peut commencer assez tôt, d'ailleurs.
Oui. Hein,
mais
il
y a beaucoup moins de jeunes. On ne dédicace pas trop à des jeunes.
Voilà,
on en parlait avec la Périne Lacroix, la libraire de Cultura, qui nous a accordé une interview. Bon, ben, on va souhaiter un beau festival.
Un bon festival.
Il fait beau,
nos auteurs, beaucoup de monde, beaucoup de lecteurs. C'est un plaisir d'avoir un livre dans les mains. L'odeur du papier, tourner les pages. Moi, j'adore. Donc, je pense que je ne suis pas la seule.
Bien, écoutez, merci au Barcarès de nous accueillir dans ce lieu peu mythique et tellement particulier.
Oui.
Chaque fois que j'arrive ici, je me dis, je vais voir le capitaine Haddock. C'est le Caraboudjan, finalement. Ouais. Merci, Marie
c'est
Dufault.
C'est un beau lieu, ce Lydia.
Oui. Merci et merci au Barcarès.
Eh bien, merci à vous.
Alors, Daniel Hernandez, c'est le régional de l'étape. Ici, tout le monde vous connaît dans les Pyrénées-Orientales, parce que vous êtes un écrivain. On le dit, c'est un écrivain régional ?
Oui, malheureusement, on le dit, et c'est un peu déclassifiant. Mais bon.
Non, c'est pas déclassifiant.
Moi, personnellement, c'est mon créneau.
Ça veut dire que l'inspiration vient du territoire, c'est tout.
Oui, on peut dire ça. C'est exactement mon objectif.
Alors, le dernier, c'est l'écrivain et le tueur.
Alors, celui-là, il vient pas du tout du territoire, mais il vient du fait que, justement, j'écris des polars, puisque un tueur m'a contacté pour que je prouve son innocence il y a à peu près une dizaine d'années.
Ah, donc c'est un fait réel.
C'est un fait réel. Mais en fait, je continue à parler, là, il n'y a pas de problème.
Ah non, on est là pour ça. Je suis là que pour vous écouter.
Donc en fait, il y a 10 ans, cette personne m'a rencontré. Je l'ai rencontré d'ailleurs en prison. J'ai rencontré les proches des victimes, les proches à lui.
Donc c'est une enquête. C'est l'auteur de Polar qui mène l'enquête.
Non, pas mon langage, qui va rencontrer les gens qui veulent le rencontrer. Et à la suite de cette histoire-là, j'ai présenté mon document et ce document a été refusé par les proches des victimes, les proches du tueur. Mais 10 ans après, comme moi je m'étais impliqué et que c'était mon histoire, je l'ai écrite en transposant l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, je parle de mon expérience à moi à travers toutes les rencontres que j'ai faites. Et aussi les raisons pour lesquelles j'écris. C'est vraiment un bouquin autobiographique qui me tenait à cœur, là, voilà.
Alors c'est original. Est-ce que vous êtes arrivé à prouver que ce tueur, en tout cas condamné comme tel, était innocent ?
Non, je n'ai rien prouvé. J'ai eu entre mes mains les documents qu'avait écrits ce tueur, qu'ils avaient écrits au parquet, au président de la République, etc., etc. Et donc, moi, j'ai pas mené d'enquête. Je me suis aperçu que ce gars avait des problèmes très, très importants psychologiquement. Donc, voilà.
Est-ce qu'il a lu le livre ?
Non, il n'a pas lu, puisqu'en fait, on va dire, ça s'est mal terminé. Le premier manuscrit que j'ai fait a été refusé. Donc celui-ci, 10 ans après, je ne me suis pas amusé à le lui envoyer.
Ça l'occuperait en cellule, peut-être.
Peut-être, il a 84 ans, je ne sais pas si ça l'intéresserait. Mais puis, je ne veux pas trop. Mais par contre, ce qu'il y a de rigolo, c'est que l'année dernière, est sorti un livre qui s'appelle Le Squal, oui, avec une dame qui s'appelle Francine Kreis, je crois, qui est une apnéiste très, très connue, et qui l'a rencontrée, mais pour une autre raison, c'est-à-dire qu'elle voulait faire un livre sur le frère de ce tueur, qui était un plongeur, et elle a connu ce gars-là. Et elle a fait le même parcours que moi, d'une certaine façon, différemment. Et elle l'a rencontré, elle a écrit le livre. Mais elle a sorti le livre en donnant les noms, etc., etc. Parce qu'elle a eu l'aval des proches du tueur, en quelque sorte.
Donc c'est quand même un sujet extrêmement original. Ça vous sort des polars classiques.
Ah ben oui.
Vous avez écrit beaucoup de polars.
Oui, ça c'est pas un polar. En plus, j'explique pourquoi j'écris. Et voilà. Non, c'est une expérience de vie incroyable, incroyable.
Bien, alors on rappelle le titre, Daniel Hernandez, l'écrivain le tueur. Vous allez voir, c'est tout à fait original. Merci Daniel Hernandez. Philippe Georget, un habitué du salon, un habitué des salons. Vous avez écrit beaucoup de livres, vous en êtes à combien là ?
Sept livres, je travaille ardemment sur le huitième.
Bon, qui va sortir quand ?
Il doit d'abord être terminé, oui. Hein, j'espère avant la fin de l'année, mais bon, plus j'avance et plus la fin s'éloigne, et après c'est l'éditeur qui décidera. Donc.
Philippe Georget, c'est une ritournelle ne fait pas le printemps, celui-là c'est le dernier chez Gigal.
Celui-là c'est le dernier effectivement, la dernière saison de mon personnage fétiche, Gilles Sebag, flic à Perpignan. Il y avait l'été, l'automne, l'hiver et donc une ritournelle ne fait pas le printemps, qui démarre lors de la procession de la Sancte, qui est une procession religieuse à Perpignan, qui n'a d'égal que les processions religieuses espagnoles et notamment à Séville, avec encore beaucoup aujourd'hui de ferveur religieuse, beaucoup d'identité catalane aussi qui s'exprime lors de cette procession, et un peu de folklore aussi, parce que ça attire des milliers de touristes dans les rues de Perpignan chaque vendredi saint.
Vous êtes journaliste, est-ce que ça aide d'être journaliste pour écrire des polars ? Est-ce qu'on trouve l'inspiration dans les reportages qu'on a fait, dans l'actualité, que l'on a peut-être fréquenté de près ?
J'évite un peu de mélanger les casquettes, donc j'évite de traiter des sujets que j'aurais traités par ailleurs, notamment en termes d'enquête, mais forcément ça nourrit. Déjà c'est un métier qui nous fait rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de populations différentes qu'on ne rencontrerait pas forcément autrement, donc oui ça nourrit, à une époque j'étais journaliste sportif, donc j'ai écrit aussi un bouquin sur la boxe, et puis c'est une pratique aussi de l'écriture tous les jours. Même la télé, on croit que l'audiovisuel, on n'écrit pas. Bah si, on écrit.
Oui, même la radio, on écrit.
Voilà. Et on essaye d'être très précis, bien sûr. Voilà. Donc, et tous les métiers n'ont pas une pratique comme ça au quotidien de l'écriture. Donc forcément, le jour où on se met devant une feuille blanche, devant son ordinateur, un peu plus classiquement aujourd'hui quand même, forcément, on a une petite expérience et de l'écriture et aussi de se dire, est-ce que je suis compris à chaque fois que j'écris ? Enfin, je pense que beaucoup d'auteurs, pour des premiers romans... écrit peut-être un peu trop pour eux et pas pour les autres. Nous, au moins, enfin, comme d'autres métiers, hein, quand même, mais on a aussi ce sentiment de... Il y a quelqu'un derrière qui va... Après, qui va lire, il faut écrire pour cette personne, pour être bien compris, et que tout ce qu'on a dans notre tête n'est pas forcément clair pour tout le monde.
Ici, c'est quand même une mine pour celui qui veut faire des polars, peut-être même des polars un peu financiers.
Oui, alors... Justement, je vous disais, on évite de mélanger les casquettes. Donc, ça serait un super décor, effectivement. Vous dites ici, on va pas...
Parce qu'on est ici. Voilà. On n'est pas dans une région de truands.
Mais à la limite, l'actualité donne déjà des enquêtes et donne déjà des rebondissements. Et donc, je ne sais pas finalement si le roman y apporterait quelque chose.
Vous avez dit 7 livres, ça fait... Vous mettez combien de temps pour écrire un livre ? Parce qu'il y a le boulot, il y a la vie...
Un an et demi, il y a 2 ans, à peu près. Moi, le premier, j'ai commencé à l'écrire en 2005. Bon, celui-là, j'ai mis 2 ans pour l'écrire, 2 ans pour trouver un éditeur. Il est sorti en 2009. Donc depuis, voilà, de 2009 à 2019, j'en ai sorti 7, mais bon, ça fait pas, ça fait quand même une moyenne tous les ans et demi, tous les deux ans.
Avez,
voilà.
Vous avez eu un prix qui peut faire sourire quand on le lit comme ça, mais qui est un prix extrêmement porteur et qui couronne des auteurs de qualité, c'est le prix SNCF du Polar.
Le prix SNCF du Polar, qui est un prix assez coté en France et à l'étranger. Je dois notamment d'être aujourd'hui traduit dans plusieurs pays, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis. Ça fait toujours plaisir quand on écrit des polars, même si après la diffusion n'est pas forcément extraordinaire là-bas, mais bon, c'est, symboliquement, c'est très intéressant. Et puis, bah oui, des grands noms du polar m'ont précédé, Karine Gibel, Franck Tilliez, donc oui, j'étais très, très heureux et très fier de le recevoir dès le premier roman.
Ah, c'était dès le premier
roman. Dès le premier, oui, oui.
Donc vous étiez déjà sur les rails, si je puis dire.
Tout à fait, c'était un bon lancement, oui, effectivement.
Merci Philippe Georget. Alors merci. Le dernier, Une ritournelle ne fait pas le printemps. Le prochain va se terminer. Vous avez le titre du prochain ou on n'en parle pas, ça, alors, ça porte malheur. Hein.
On peut dire le titre, allez. Humanum est.
Humanum est. Ah ben, un gros programme là.
Voilà.
Allez, on l'attend avec impatience, puis peut-être au salon de l'année prochaine, ici, sur le Lydia.
Peut-être.
On va en parler.
Oui.
Merci Philippe Georget.
Merci.
Alors, Nicolas Feuss. Nicolas Feuss, il y a un Suisse dans l'Assemblée. C'est vous.
Le seul, apparemment. C'est
le
moi.
Le seul, mais, moi. Mais quel Suisse?
Alors oui, bah, j'arrive déjà pas à cacher mon accent, donc je peux pas me faire passer pour un auteur français. Néanmoins, j'ai écrit un polar. Qui se passe en France?
Qui se passe en France? Bon. Alors, vous êtes un professionnel un peu, non? J'ai cru comprendre. Alors, il y a des policiers qui écrivent, il y a des avocats, j'en suis. Il y a des magistrats, c'est un peu votre cas? Vous êtes magistrat suisse?
Alors, moi, je suis procureur de la République, comme on dit en France, même si la Suisse n'est pas une république. Mais mon canton à Neuchâtel est une république, donc je peux m'intituler procureur de la République. Ça fait 23 ans que je travaille dans la magistrature suisse. J'ai travaillé 12 ans comme juge d'instruction et maintenant 11 ans comme procureur.
Et alors, ça, comment ça amène à écrire? Parce que tous les professionnels n'écrivent pas forcément. Ça vous démangeait, vous ennuyez? Il n'y a pas de crime, il ne se passe rien. La Suisse est un pays tellement calme. Alors, on se dit, voilà, on va écrire des livres pour meubler les longues journées de bureau, parquet.
Ah, c'est ça. Les magistrats ont la réputation de ne pas travailler. D'ailleurs, les magistrats ont la réputation de toujours être en retard dans leur dossier. Donc.
Voilà, de dormir pendant les audiences quand ils sont du siège, etc.
Exactement.
Nous connaissons bien ça en France.
Exactement. Non, alors, c'est vrai que je me suis mis une sacrée pression sur les bras parce que, justement, le fait de sortir des polars, d'être très médiatisé, notamment du côté de la Suisse, fait qu'on, en tout cas en Suisse, on m'attend au contour. Donc au contraire, ça m'a boosté et ça m'a forcé à être à jour dans mes dossiers. Donc c'est vrai que parallèlement, ben, j'écris des polars. J'ai quand même diminué mon taux d'activité comme magistrat. Donc depuis le 1er janvier 2021, j'ai diminué à 70%. Je ne dis pas 70%. mais c'est vrai que ces dernières années, jusqu'au 31 décembre 2020, j'étais à 100%.
Et vos polars se passent, donc celui-là se passe en France, et le dernier, on va donner le titre, Hérésix.
Exact.
Un titre un peu mystérieux, ça, Hérésix.
Alors, c'est Hérésix avec la croix occitane sur la couverture, des flammes qui peuvent rappeler les bûchers, donc évidemment, on part sur la trace des cathares. Et c'est un polar contemporain. C'est une histoire de vengeance qui se passe aujourd'hui dans une Occitanie qui est plus celle côté de l'Hérault. Donc on est entre Montpellier, Béziers, les stations balnéaires de Agde, Cap d'Agde. Mais évidemment, il y a aussi des références à l'histoire des cathares. Donc on remonte un petit peu du côté de Carcassonne, de Toulouse, de plus petites cités que moi je connais bien, que tout le monde ne connaît pas forcément, mais comme Minerve, comme des villes où il s'est passé des choses pendant la croisade contre les cathares, comme la Vaure, etc. Donc oui, c'est une période qui m'intéresse énormément. C'est une période qui est très peu connue. Je crois qu'elle est assez peu connue globalement en France, alors probablement pas dans la région, mais elle est encore moins connue en Suisse, sauf pour les Suisses qui sont venus en région dans l'Occitanie et qui se sont intéressés au château cathare. Mais en fait, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir mes parents qui vivent dans l'Hérault.
Oui, parce qu'il fallait quand même bien un point d'attache. C'est rare qu'un citoyen suisse en activité au surplus, bon, en retraité, ouais, qui fait des recherches, ça peut arriver, mais en activité, vienne ici s'intéresser à cette histoire-là.
Non, alors l'explication est double. C'est qu'en fait, mes parents sont établis dans l'Hérault depuis une trentaine d'années, surtout depuis leur retraite. Et deuxièmement, mon père était professeur d'histoire. Et donc, quand il est venu s'établir dans l'Hérault, il s'est tout de suite intéressé à l'histoire locale. Et l'histoire locale...
Donc les recherches ont été toutes faites...
par le papa.
Par le papa, il suffisait... Et alors c'est là que ça prend toute son importance. Il ne suffisait plus que d'écrire.
Exactement, mais néanmoins, ce n'est pas un polar historique. Donc sur une soixantaine de chapitres, je pense qu'il y a 5-6 chapitres qui sont des flashbacks pendant la croisade contre les Albigeois. Donc je parle notamment de la prise de Béziers, de la prise de Carcassonne, des sièges de
Béziers. Tu es là tous.
Du reconnaître Alicia. Voilà. Voilà. Mais sinon, ça reste un polar contemporain avec des scènes d'aujourd'hui. Alors on serait en 2020, 2021, ce n'est pas vraiment ciblé dans le temps. Et on part aussi du côté... Alors, on m'a souvent posé la question, pourquoi le titre Hérésix ? Alors, il y a l'hérésie, évidemment, d'un côté, qui fait référence au Qatar, et on m'a dit, mais pourquoi ce X qui veut rien dire ? Alors, je réponds, le X, en fait, c'est le clin d'œil au Cap d'Agde et aux soirées un peu chaudes du Cap d'Agde.
Alors, vous avez écrit beaucoup de livres, j'ai entendu 14, c'est ça ?
Alors, j'ai écrit 14 polars au total, dont, en fait, les 7 premiers ne sont disponibles qu'en Suisse. On les trouve en France par des plateformes que je ne vais pas citer parce que les libraires détestent tout ça.
Oui,
mais voilà, donc je ne les citerai pas. Mais maintenant, depuis 2018, effectivement, j'ai 7 polars qui sont arrivés sur sol français par les éditeurs Statkin et compagnie et le livre de poche.
Et cela se passe véritablement en Suisse ?
Alors la plupart se passent en Suisse ou ont une attache avec la Suisse parce que j'ai toujours aimé voyager dans mes polars. J'ai des polars... Les premiers, notamment, j'en ai un qui voyage entre la Suisse et le Kenya, j'en avais un autre qui voyageait entre la Suisse et la Croatie, j'en ai un qui démarre en Suisse qui finit en Camargue, et puis aussi entre la Suisse et la Laponie finlandaise. J'avais écrit un seul livre dans les premiers qui se situait déjà 100% sur le territoire français, pour autant que ce soit français. Il s'appelait Les Bouches et ça se passait en Corse.
Bah, en Suisse, il y a quand même, je sais pas, vous faites pas dans le polar financier, il y aurait de quoi écrire, certainement, non ?
Ça a été fait, ça a été fait et refait, oui.
Et ce sera encore refait ?
Probablement.
Alors, est-ce que vos dossiers sont une source d'inspiration ou pas du tout ?
Alors oui,
un peu quand même. Hein,
je dirais ce qui est clairement une source d'inspiration, c'est ce que j'appelle des généralités, c'est-à-dire le travail de la police judiciaire, de la police scientifique, la médecine légale. Maintenant, je vais m'inspirer de mes dossiers, mais en prenant des bribes non reconnaissables, des petites anecdotes qui me parlent dans un dossier ou un autre. Je ne peux pas prendre un dossier global et le transformer en polar, parce que là, je risquerais une plainte pénale pour violation du secret de fonction et ce genre de choses.
Et ce serait pas mal. Alors, on va rappeler Nicolas Feuze, Hérésix, chez Statkin, c'est ça ?
Statkin et compagnie, oui, qui est éditeur parisien.
Éditeur parisien, oui. Bon, il n'est pas suisse. Donc, finalement, tout est français, sauf l'auteur, pour ce livre.
Exactement. Hein ?
Nicolas Feuze, Hérésix, merci beaucoup, Nicolas.
Merci à vous.
Alors, Jean-Christophe Ladjet, à vous, vous n'écrivez pas. Mais si on est là, c'est grâce à vous.
Oui.
Vous êtes l'organisateur. Oui. Vous écrivez, mais encore, on ne vous a pas vu en dédicace.
Oui. Oui, je suis l'organisateur, donc... de la mairie du Barcarès, et donc sur les vœux du maire d'organiser un événement culturel qui fasse date dans le département. On a souhaité justement créer ce carrefour littéraire qui est un carrefour entre les genres du polar et de la littérature de l'imaginaire.
Donc ça fait 7e édition, je crois.
Cinquième
édition. La première s'est pas faite ici.
Ah, si. Elle était au-dessus.
Elle était au-dessus, voilà, je m'en souviens. Quand je dis ici, il faudrait préciser, mais les auditeurs ont entendu,
on est sur
le Lydia, c'est-à-dire un bateau qui jouxte quasiment la mer, mais qui est ensablé, donc on n'a pas le mal de mer. C'est quand même un gros avantage.
C'est une croisière immobile.
Voilà, et c'est un fantastique endroit. C'est un bateau qui ressemble un peu à celui du Carabou de Jean du capitaine Haddock. C'est une grande chance pour la mairie du Barcarès d'avoir cet outil à sa disposition. Qu'est-ce que vous prévoyez d'y faire ?
Oh, on y fait déjà pas mal de choses. Le festival Electro Beach l'utilise donc l'été. On y loue des salles aussi pour des mariages, des congrès. Et puis on y organise des événements culturels comme le festival du Polar, justement.
Vous allez le refaire ? Ça va devenir... un salon qui sera récurrent.
Ah, on espère.
Enfin, on est déjà à la cinquième.
Voilà, on est à la cinquième édition. On espère grandir petit à petit, d'édition en édition, et d'occuper carrément tout le Lydia avec des auteurs.
Ah, ce serait fabuleux.
Ce serait fabuleux.
Le problème, c'est la fréquentation, parce que c'est très difficile d'attirer les gens. Et là, on est sur une station qui, j'imagine, au mois de juillet, août, Certainement, il y a énormément de monde, ce qui n'est plus forcément le cas hors saison.
Oui, alors le Festival du Polar a été décidé justement pour lancer la saison. Donc on le fait au mois de juin, cette année on le fait au mois de septembre à cause des conditions sanitaires, mais on le fait traditionnellement au mois de juin, et ça lance donc la saison estivale, et ça permet à un public qui ne vient pas spécialement pour uniquement pour la mer, de profiter d'une petite parenthèse culturelle.
Oui, donc il faut quand même l'amener ici, parce que la commune est très longue. On n'est pas au centre de la commune, il n'y a pas de centre dans la commune, je crois qu'il y a 7 km, 8 km, donc c'est colossal. Il faut quand même amener les gens sur le Lydia. C'est une référence que beaucoup de gens connaissent, mais ça doit être en termes d'organisation assez compliqué.
Il faut faire beaucoup de communication, il faut effectivement en parler, on en parle sur les réseaux sociaux, on en parle sur le site de la commune, la presse nous relaie aussi l'information, et on utilise aussi le réseau des bibliothèques et des médiathèques de Perpignan Méditerranée Métropole, du département, mais aussi de toute la région Occitanie.
Parce qu'il faut préciser que le salon dure 2 jours et demi.
2 jours et demi, c'est ça.
2 jours et demi avec des signatures, avec des dédicaces, avec aussi des tables rondes qui sont rectangulaires, mais bon, des tables rondes où l'on parle de différents sujets, où les auteurs vont au contact du lecteur, il y a des échanges, c'est vivant. Je pense qu'il y en a un certain nombre, puisque vous m'avez demandé et fait l'honneur de me demander d'en diriger certaines, je ne sais pas comment il faut dire, diriger,
animer.
J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés parce qu'ils ont peut-être découvert certains genres vers lesquels ils n'allaient pas.
C'est ça, c'est tout à fait le but du festival, c'est faire connaître aux lecteurs de polar la littérature de l'imaginaire et faire connaître donc aux lecteurs de l'imaginaire le polar. Et donc se faire rencontrer ces différents lecteurs.
Il y a du polar, mais il y a aussi de la BD.
Il y a aussi de la BD. On a ouvert un petit peu à la BD et on essaie justement d'ouvrir comme ça à toute la littérature de genre.
Polar, BD, fantasy aussi, selon ce terme anglais, mais qui commence à être à peu près connu de tout le monde, avec de fabuleux auteurs. On découvre des mondes extrêmement intéressants. Merci d'avoir imaginé ce salon qui doit vous coûter, parce que c'est lourd, il faut gérer les auteurs pendant 2 jours et demi.
C'est beaucoup d'organisation.
Beaucoup d'organisation, beaucoup d'intendance, appuyé sur une librairie.
Voilà, Cultura. Qui est notre libraire qui nous soutient dans cette opération.
Périne Lacroix nous a parlé un peu de son travail sur ce salon et sur ce qu'elle faisait et sur son Cultura.
Il faut aussi parler des services municipaux qui nous aident beaucoup et qui assurent une grande partie de la logistique du festival. On les cite rarement parce qu'on ne les voit jamais, mais ils sont derrière nous et c'est eux qui font tourner la machine.
Bon, eh bien merci au Barcarès, merci à tous ceux qui œuvrent pour que ce festival soit ce qu'il soit, c'est-à-dire une réussite, et surtout merci Jean-Christophe Ladjet, parce que toute l'année, on communique et on prépare, et c'est un gros travail, mais comme la réussite est à la clé, comme le lieu est magnifique, eh bien la réussite, vraisemblablement, sera pérenne, et dans les années prochaines, nous reparlerons du festival du Barcarès, du Salon du Livre du Barcarès.
Et on vous recevra avec grand plaisir.
Merci Jean-Christophe.
Merci.
C'était le 5e festival Méditerranée, Polar et Aventure. Nous étions à bord du Lydia avec un équipage de grande qualité. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Tiffaine Lemaine, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission avec tous les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu. The sun has left and forgotten.